Bonjour à tous. Je voulais juste prier avant de commencer. Seigneur, merci encore pour ta parole qui est vraie, qui est vérité, qui nous fait du bien, mais qui des fois nous bouscule et qui vient pointer du doigt des choses qui sont dans nos cœurs et qui ne sont pas conformes. Et Seigneur, ce matin encore et pour cette prédication, je te demande d'ouvrir nos cœurs, Seigneur, de nous laisser malléables à ta parole, Seigneur, pour qu'elle puisse nous transformer, qu'elle puisse changer des choses qui ne sont pas à ta gloire et nous rendre conformes à ta volonté. Seigneur, bénis ce passage, Seigneur, et bénis ce moment pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le prolongement de ce qu'on a déjà vu sur les Corinthiens jusqu'ici, jusqu'au chapitre 4 et les 8 premiers versets qu'on a vus, on va continuer et on va voir la suite. Et pour résumer un petit peu ce que Paul dit aux Corinthiens jusqu'ici, donc du chapitre 1 au chapitre 4, il s'adresse à eux en leur disant des choses et en les reprenant sur les divisions qu'il y a au sein de l'église de Corinthe. Beaucoup se mettent à la suite de leaders différents. Il y a des groupes dans l'église et l'église est morcelée et factionnée. Ce que Paul va adresser, c'est de leur demander de s'unir, et c'est vraiment le thème qui traverse tous ces quatre premiers chapitres. La fois précédente, en demandant de ne pas juger les responsables, et aujourd'hui, en regardant un problème qui, je crois, est notre problème à tous, c'est un problème d'orgueil. Dans les lectures d'Éric ce matin, il a évoqué beaucoup l'humilité, et c'est ce que Paul va prêcher aux Corinthiens, l'humilité, dans tous les domaines de notre vie, et dans notre regard aux frères et sœurs. Je vais lire le passage qui est donc 1 Corinthiens chapitre 4, les versets 9 au verset 21, et donc jusqu'à la fin du chapitre. Verset 9. En effet, il me semble que Dieu a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été donnés en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons de la faim, de la soif, du dénuement. Nous sommes maltraités, errants. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous répondons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le déchet de tous, jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris cela, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. En effet, même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai donné la vie en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en supplie donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quels sont mes principes de vie en Christ, tels que je les enseigne partout, dans toutes les églises. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil en pensant que je ne viendrai pas chez vous, mais je viendrai bientôt, si c'est la volonté du Seigneur. Et je prendrai connaissance, non pas des paroles, mais de la puissance de ceux qui se sont enflés d'orgueil. En effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous? Que je vienne chez vous avec un bâton ou avec amour et dans un esprit de douceur? Éric parlait de moments de respiration dans la parole. Alors, une respiration un petit peu brutale. Quand on voit le début du passage et même la fin, ce n'est pas le passage qui réconforte tout de suite, ou en tout cas à première vue. On peut se sentir déstabilisé par les descriptions qui sont faites des apôtres ou trouver Paul dur de s'adresser à eux comme ça, de parler même de venir avec un bâton pour les corriger. Mais s'il est aussi dur, c'est parce que le problème est grave. L'orgueil des Corinthiens est un vrai problème et qui les divise et qui les éloigne du chemin du Seigneur. Et pour donner un titre à cette prédication, j'ai regardé un peu et je me suis dit, l'humilité plutôt que l'arrogance. Donc c'est l'humilité plutôt que l'arrogance. Comme un peu un remède à cette arrogance, cet orgueil. Et Paul va leur répondre en donnant trois choses ou en disant trois choses. en présentant la condition des apôtres premièrement, en leur demandant d'être ses imitateurs et en leur promettant de venir avec la puissance du royaume de Dieu. Et je propose qu'on regarde ce premier point, ce que c'est que le rappel de la vraie condition du disciple, dans les versets 9 et 13. Une partie des raisons pour lesquelles les Corinthiens rejetaient Paul, c'est parce que pour eux, il n'avait pas l'étoffe d'un apôtre. C'était quelqu'un qui n'avait pas de prestance, qui n'avait pas l'image, qui n'avait pas la carrure et qui n'avait pas l'éloquence. En fait, rien de ce à quoi Paul correspondait ne correspondait à leur vision d'un apôtre. Et en même temps, ils avaient aussi eux-mêmes une haute estime d'eux-mêmes. Et là, je vous ramène au verset 8 du chapitre 4. Où Paul leur disait, déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, vous avez commencé à régner sans nous, si seulement vous pouviez régner en effet, pour que nous aussi nous puissions régner avec vous. Où Paul leur disait un peu avec ironie, ouais, vous êtes rassasiés, riches, et vous êtes en train de régner déjà. Mais lui va décrire ce que c'est que la condition d'un apôtre, la vraie condition de vie, ce qu'est réellement un apôtre. Et il le résume assez simplement au verset 9. Les apôtres sont les derniers des hommes. Ils sont comme des condamnés à mort. Ils sont donnés au spectacle à tous. Voilà comment Paul résume ce que c'est qu'un apôtre. Il prend l'image ici de guerre, de conquête, ou surtout de l'Empire romain, où après une victoire, l'empereur romain ou le chef de guerre ramenait donc les esclaves ou les vaincus à Rome, et il y avait une procession, un cortège, et donc il y avait les vainqueurs qui étaient célébrés, et tout au bout du cortège, il y avait ceux qui avaient été capturés. Et ils étaient là exhibés comme des victimes, le rebut de leur peuple, et au bout, ils finissaient dans l'arène, où ils étaient soit jetés aux lions, ou jetés aux gladiateurs. Et c'est vraiment une description assez macabre, triste, sombre, de ce que peut être un apôtre. Rien de très glorieux, rien d'impressionnant, rien qui suscite l'admiration. En vrai, ce que Paul décrit, c'est une condition de loser, des perdants, des gens au bout de la société. Il va continuer avec un peu d'ironie et de sarcasme à montrer le contraste et même l'opposition qu'il y a entre ce que lui considère être la vraie condition d'un apôtre et ce que eux considèrent être un apôtre. Et au verset 10, il va leur dire: nous, nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous, nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts. Vous êtes honorés, nous, nous sommes méprisés. Et il va même continuer au verset 11 et 13 à décrire tout ça. Ce que c'est qu'un apôtre, le manque, la privation, la faim, la soif, le dénuement, les coups, la vie errante, de la peine à travailler de ses propres mains, ou encore des insultes, de la persécution, de la diffamation, auxquelles ils répondent avec bonté. Ou encore, et terrible, la fin du verset 13, les déchets du monde. Franchement, c'est dur. C'est une description absolument sombre de ce que c'est qu'un apôtre. Mais en fait, ce que Paul est en train de faire, c'est de décrire non seulement leur condition, à eux les apôtres, mais avec ironie de montrer que c'est la condition des Corinthiens eux-mêmes. Mais aussi notre condition à nous, en tant que chrétiens, en tant que disciples du Christ. On pourrait être tenté de croire que, comme les Corinthiens, en tant que chrétiens, on devrait être des gens qui sont rassasiés, riches, en train de régner. Et en disant ça, c'est en prenant des promesses de Jésus, comme dans Luc 22, où il promet de leur donner de régner avec eux, où il leur promet d'être des juges d'Israël, des 12 tribus. Mais le véritable souci à croire ce genre de choses, c'est qu'on se positionne déjà au retour du Seigneur et on n'est pas en train de regarder la condition aujourd'hui et ici. Ce que le Seigneur promet, c'est vrai, va ultimement s'accomplir à son retour, mais en attendant, la condition qu'on a ici, c'est celle-là. D'être des gens qui ne sont pas très hauts dans la société, pas très considérés, qui sont plutôt très bas. On pourrait être tenté de penser que la vie chrétienne, c'est enfin se débarrasser des souffrances, de la douleur, de la peur, de la crainte. Mais ce que Paul décrit, c'est absolument pas ça. Et en pointant du doigt ça, je pointe le mensonge de l'évangile de prospérité qui nous enseigne un peu partout, et on l'entend partout et sur Internet ou sur des vidéos, que la souffrance est anormale, ou qu'elle est due à un manque de foi, ou que le manque de succès dans le monde ou dans la vie aujourd'hui, dans tous les domaines qu'on peut avoir, c'est dû à un manque de prière, ou que le meilleur peut être obtenu dans cette vie et ici et maintenant. Et en fait, qu'on devrait être rassasié, riche et régner déjà. Mais c'est un mensonge. Nous n'y sommes pas encore parce que le Seigneur n'est pas encore revenu. Oui, il est mort à la croix, il nous délivre du péché, il nous fait entrer dans son royaume, mais on ne triomphe pas encore. Le monde est encore dominé par le péché, par le mal. Et il y a 2 semaines, si vous étiez là, c'était le dimanche de l'Église persécutée, vous avez dû voir des exemples de ce que c'est que le chrétien et de ce qu'il vit en Afrique subsaharienne. Et j'ai encore ces chiffres qui me tournent en tête, 365 millions de chrétiens persécutés dans le monde, 1 chrétien sur 7. Il y avait cette situation et cette vidéo en Afrique subsaharienne où on montrait 16 millions de déplacés, méprisés, rejetés, déplacés, abandonnés, pour certains, tués. Ça, c'est leur réalité à eux. Et en fait, c'est notre réalité en tant que chrétiens. On ne triomphe pas encore. On souffre. Et quelque chose qui m'a frappé, c'est que eux, dans cette condition, n'étaient pas en train de dire « grosse injustice, ce n'est pas normal ce qu'on vit. Seigneur, où es-tu ?» Au contraire, ils affirmaient « ça correspond à ce que c'est qu'un disciple. » Jean 15, 20 nous dit « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Et la réalité, c'est que le disciple du Seigneur, nous tous, frères et sœurs, c'est que la souffrance est de cette vie. Le dénuement est de cette vie, la persécution est de cette vie, parce qu'en fait, c'est le chemin de la croix, c'est le chemin qu'a emprunté le Seigneur lui-même, et c'est le chemin que nous empruntons à sa suite. Si c'est ce qu'il a vécu lui, nous qui le suivons et qui ne sommes pas plus grands que lui, nous le vivons aussi. Être un disciple de Christ, c'est participer à ses souffrances, suivre le chemin de la croix, obéir à ses enseignements. Et en fait, alors, tout ce que Paul décrit des versets 10 au verset 13, c'est notre réalité. Et si on y réfléchit, c'est exactement ça. On est considéré comme des fous à cause de Christ. Vous allez à l'église le dimanche matin, vous êtes un peu fou, vous. Hein ? Pourquoi se soumettre encore à un Dieu qui n'existe pas et qu'on ne voit pas ? Vous êtes faible, vous n'avez rien, peu de moyens, peu nombreux, aucun pouvoir dans la société. Vous êtes méprisé, oui, persécuté. Quelle armée avez-vous? Comment vous vous défendez? Et en fait, l'enseignement du Seigneur, c'est endurons les manques. Acceptons d'être fous à cause de Christ. Persévérons malgré les mauvais traitements, parce que c'est ce que lui-même a vécu. Et même si on l'injure, répondons avec bonté. Même si on nous persécute, acceptons-le. C'est vrai, être considéré comme les déchets du monde ou le rebut de tous, ça fait rêver personne. Et c'est sûr que si notre évangélisation commence par ça, mon frère, viens à Christ et tu seras un déchet, personne ne viendrait au Seigneur. Pourtant, ça fait partie de la réalité de la vie en Christ. Elle est tout entière, elle est au centre. Parce que si la croix est au centre, alors on reconnaît les souffrances de Christ. Et alors c'est notre chemin à nous aussi. Mais il y a quand même un réconfort dans tout ça. C'est que le chemin de la croix ne s'arrête pas à la souffrance et ne s'arrête pas à la vie de méprise. Il continue. Et si on tient et qu'on arrive jusqu'au bout, alors on triomphe avec Christ. Et sans copier la prédication d'Éric il y a 2 semaines, je veux juste relire la fin de Romains 8 qui est un véritable encouragement pour nous. Romains 8, déjà au verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre part à sa gloire. En tant qu'héritier, il y a cette première partie, les souffrances, et si on souffre avec lui, on prend part à sa gloire. Le triomphe qui est à Christ devient le nôtre, parce qu'on est ses héritiers et parce qu'on a suivi son chemin. Ou encore Romains 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour du Christ ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée ? Ou la fin du passage, à partir du verset 37. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et oui, si notre vie chrétienne est notre condition réelle, c'est d'être considéré comme ces fameux déchets du monde ou le rebut de la société, nous savons qu'ultimement, nous triompherons avec Christ et que pendant ce chemin, il est avec nous et il ne nous abandonne pas. Mais alors le bon réflexe à avoir dans toutes ces situations, c'est de l'humilité. Humilité parce qu'on n'est pas grand-chose, parce qu'on n'a, pour beaucoup d'entre nous, pas beaucoup souffert, parce qu'on n'est pas au bout du chemin et on n'oserait pas se comparer à Christ et à ce qu'il a souffert lui. Mais on peut placer notre fierté dans le fait qu'il ne nous abandonne pas et qu'il est avec nous et que rien ne peut nous séparer de son amour. Dans ce deuxième point que je vais aborder, les versets 14 à 17, Paul demande littéralement aux Corinthiens d'être des imitateurs. On doit devenir des imitateurs de nos leaders, les versets 14 à 17. Et c'est vrai, si Paul a parlé durement et a dépeint un tableau peu reluisant, mais réel de la condition des apôtres et des Corinthiens eux-mêmes, ce n'est pas pour leur faire honte, et c'est ce qu'il dit dès le verset 14, mais c'est pour les avertir du danger de l'orgueil, de se croire arrivé alors qu'on est encore en chemin ou qu'on n'est pas très loin. Paul va affirmer ou réaffirmer son autorité légitime d'apôtre face à eux et va leur dire une chose principale, qui est la chose suivante. « Je vous en supplie, soyez mes imitateurs. » Et c'est au verset 16. Voici ce qu'il va leur dire dans cette section. Et c'est vrai qu'en lisant, ma première impression, ça a été de me dire, « Ok, s'il reproche aux Corinthiens d'être arrogants, est-ce que lui-même, il n'est pas pris en flagrant délit d'arrogance ici, en disant « Soyez mes imitateurs, regardez-moi et calquez votre vie sur moi. » Et il pourrait dire « Soyez les imitateurs du Seigneur ». Non, il le dit directement, verset 16, « Je vous en supplie, soyez mes imitateurs ». Mais là aussi, Paul va expliquer pourquoi il leur parle avec une telle autorité et il exige d'eux qu'ils soient les imitateurs, ses imitateurs. Premièrement, au verset 15, « Parce qu'il est leur père spirituel ». Ça, c'est la première chose. C'est par son ministère qu'ils se sont convertis. Et cette église de Corinthe est née parce que lui, Paul, est venu et a annoncé l'évangile aux premières personnes à Corinthe. Avant lui, pas d'église. Et donc, il peut revendiquer cette paternité de leur dire « Je suis votre père ». S'il y a une église ici, c'est moi qui l'ai fondée. Si l'évangile est arrivé jusqu'à vous, c'est par moi, Paul. Je suis votre père spirituel. Ils peuvent avoir des gourous, des maîtres. Il dit même dans le passage, vous pouvez en avoir 1000 ou 10 000, mais le seul père qu'ils ont spirituel, c'est Paul. Par son message et par son entremise qu'ils ont cru. Et la deuxième raison pour laquelle il peut leur parler comme ça, c'est parce qu'il les aime. Au verset 14, il les aime comme un père aime ses enfants. Et l'idée de l'imitation, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas différente de ce qu'on vit dans la vie de tous les jours. Pas longtemps, mon beau-père était là et a fait une petite remarque. « Ah tiens, ton fils marche comme toi. » Je n'avais jamais remarqué ou fait attention à ça, mais en fait, il y a une certaine logique. Il me voit marcher, ben, il adopte ma démarche. Et en fait, ça va dans tous les domaines de la vie. Le comportement, le caractère, les croyances, les choses bonnes comme les choses mauvaises. En fait, les enfants imitent naturellement leur père ou leurs parents. En fait, on peut dire tel père, tel fils, parce que les enfants imitent leurs parents. Ou les chiens font pas des chats, parce qu'on reconnaît l'enfant à son père. Même caractère. Et ici, c'est la même chose. Paul va leur redire, si c'est moi qui ai été votre père, alors imitez-moi. Plutôt que de chercher des maîtres différents, des enseignants différents, des gourous, non, revenez à ce que je vous ai enseigné et imitez-moi. Et la raison pour laquelle il envoie Timothée d'ailleurs, son fils bien-aimé aussi, compagnon fidèle, c'est pour leur rappeler tous les principes de vie tels que Christ, tous ces principes de vie en Christ tels qu'il les enseigne partout, dans toutes les églises. Verset 15. En gros, Timothée va venir les aider à imiter Paul. Rien de plus. En regardant un peu dans l'Église et nous ici, et je me suis interrogé, je me suis dit à quel niveau de maturité je dois être pour que je puisse dire « imitez-moi ». Calquez votre vie sur ma vie. Tout ce que je fais, faites-le. À quel niveau de maturité, de sanctification on doit se positionner pour pouvoir dire ça aux frères et sœurs? Parce qu'en fait, dans l'Église, naturellement, comme dans tous les autres milieux, on imite des gens qu'on admire, des gens qui sont positionnés au-dessus de nous, qu'on choisit comme modèle. Et en fait, ça se passe ici, dans nos milieux. Et si c'est le cas, si dans l'Église on a à la fois des pères ou des mères spirituelles, ou on est des enfants spirituels, si on a des maîtres, ou si on est des disciples, si on a des mentors, ou qu'on est mentoré, ou pour des termes plus jeunes, si on a des influenceurs, ou que nous-mêmes on est influencés, qu'est-ce qu'on devrait rechercher chez ces influenceurs, ou ces mentors, ou ces maîtres? Quelles qualités on devrait rechercher chez eux? Et là, c'est une application directe pour nous que je vise ici. Étant donné que naturellement, on va admirer des gens, moi, je veux vous suggérer qu'on devrait le faire de façon intentionnelle. Être intentionnellement des leaders ou des influenceurs dans l'Église. Peut-être tous ne se sentent pas la compétence, la qualité, mais en fait, par défaut, ou par nos rôles, ou par nos positions, on l'est. Que ce soit dans nos responsabilités dans l'Église différentes, enseignement des enfants, autres responsabilités, que ce soit par l'âge. Une fois qu'on est plus âgé, mais des plus jeunes nous observent et calquent leur vie sur eux. Si on est un couple stable, marié depuis des années, mais des plus jeunes couples vont regarder, vont se dire « Waouh, modèle !» Des enfants grands, mais alors les plus jeunes couples qui élèvent des petits-enfants vont dire aussi « Oui, normal qu'on les regarde. » Dans énormément de contextes, que ce soit dans la relation un à un, qu'on ait amené quelqu'un à la foi, comme Paul le dit, mais alors on devient un modèle ou un influenceur pour cette personne. Mais encore une fois, je veux suggérer qu'on approche cela de façon plus intentionnelle et qu'on se dise, si on devrait se positionner en tant qu'influenceur, quel devrait être notre portrait robot? Et une des premières choses, et un peu comme les influenceurs du monde, c'est qu'ils sont conscients de leur influence. C'est la première chose. Conscient qu'on est observé, qu'on est regardé, que des gens scrutent notre comportement et calquent leur vie sur nous, que ce soit nos enfants, que ce soit d'autres, et que ce soit conscient ou non, on est dans cette position. Mais alors, important de se souvenir, oui, je suis dans une position d'influence, alors je devrais avoir la vie qui correspond. Je ne devrais pas faire n'importe quoi. L'autre chose, c'est en prenant soin des gens autour de nous. Si on est dans une position d'influence, alors on peut se tourner et regarder les autres et se dire « Ok, j'évalue ceux qui sont autour de moi et alors je peux les aider de façon plus précise. » parce que je réalise qu'il y a peut-être besoin de croissance, besoin d'aide particulière, et alors je le fais. Aussi en créant des liens, parce que plus facile d'influencer quelqu'un avec qui on a des liens, avec qui on est proche, avec qui on cultive les choses. Mais pour d'autres choses, grandir aussi dans notre connaissance de la parole. Parce qu'être des influenceurs, c'est être aussi des gens qui connaissent la parole, qui la vivent, mais qui la connaissent. Et si on la connaît, c'est alors la mettre en pratique. Parce que je rappelle que dans le verset 17, que je vais relire, Paul dit « Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur, pour qu'il rappelle, qu'il vous rappellera quels sont mes principes de vie en Christ, tels que je vous les enseigne partout, dans toutes les églises. » Il ne dit pas juste « Timothée va venir rappeler ma théologie, ma doctrine, mes principes de vie, mon éthique. » Non, mes principes de vie. À la fois l'évangile dans lequel il croit, mais comment il vit cet évangile de façon pratique et dans tous les domaines de sa vie. Et donc, c'est pour ça que je disais, connaître et grandir dans la parole, mais la vivre dans nos gestes du quotidien. Et je réalise tous les défis que ça peut être, qu'on soit au boulot, qu'on soit aux études, qu'on soit dans la circulation, dans les bouchons. Dans tous ces domaines, on devrait vivre de façon cohérente avec l'évangile auquel on croit. Mais aussi un influenceur devrait être vrai, honnête sur ses faiblesses, parce qu'on reconnaît qu'on n'est pas parfait et qu'on progresse dans notre lutte face au péché. Et peut-être choisir particulièrement d'aider des personnes, être vraiment un mentor particulier pour une ou l'autre personne et l'accompagner. Mais c'est des choses qu'on devrait vraiment considérer parce que quoi qu'on le fasse, on est à des positions d'influence. Influence de ceux qui nous entourent, de nos familles, et même de gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais alors on devrait prendre ce rôle très au sérieux. Et dans l'autre sens, si on est un influencé, ou quelqu'un qui est mentoré, ou quelqu'un qui suit, simple, c'est écouter, regarder comment les chrétiens plus mûrs travaillent, vivent, mettent en application l'Évangile, comment ils sont fidèles et comment ils avancent. Mais c'est aussi une volonté qu'on doit avoir de se laisser transformer, modelé par quelqu'un qui a plus d'influence que nous, plus de maturité. En gros, imiter, c'est vraiment quelque chose que le Seigneur met dans l'Église et dans nos relations communes pour qu'on grandisse dans notre foi. La pensée et la pratique, la conviction, mais aussi l'action. Pour finir sur ce dernier point, les derniers versets, les versets 18 et 21, on voit l'humilité de la puissance du royaume de Dieu. Et c'est sur ça que Paul va terminer cette grosse section, sur un passage doux, amer. Il leur dit des choses bonnes, mais quand même, il menace avec un bâton. Il est prêt à venir avec douceur, mais il est aussi prêt à venir pour corriger. Et là, il s'attaque directement à ceux qui foutent des troubles au milieu de l'Église. Et il va s'adresser directement à eux. Si je viens, et il va venir, et c'est son souhait, mais vu que c'est retardé, Timothée va devant lui, mais il va y aller, c'est son souhait, et il va le faire. Mais s'il vient, ce ne sera plus des paroles. Que ceux qui divisent l'Église montrent leur puissance. On n'est plus au stade où on parle, où on s'écrit des lettres, qu'il montre. Et en disant ça, Paul assume aussi de montrer quelle est la puissance du royaume de Dieu. Pas juste de parler, pas juste d'écrire des lettres, mais de montrer quelle est la puissance du royaume de Dieu. Mais il leur dit quand même qu'il préfère venir avec douceur. Mais s'il le faut, il viendra avec le bâton et il corrigera. Et là encore une fois, j'y vois une application pour nous. En tant qu'Église, en tant que famille, en tant que corps, on a des responsables et qui ont droit de regard sur nos vies et qui peuvent exercer la discipline s'ils se rendent compte qu'il y a des situations qui ne sont pas correctes ou conformes dans nos vies. Et cet avertissement que Paul lance aux Corinthiens, il est le même pour nous tous. Ils peuvent venir aussi avec le bâton et corriger, appliquer la discipline. C'est la chose normale à faire. Tout comme un parent qui éduque son enfant va corriger. Alors pas avec un bâton, sinon vous irez en prison, mais il corrige. Il reprend, il remet le droit. Mais comme des pères, Paul souhaite quand même venir avec amour et pouvoir dire « Vous vous êtes trompé, vous vous êtes égaré, vous vous êtes enflé d'orgueil. Vous demandez pardon et on se réconcilie. Et on avance sur le chemin de la foi. » Voilà le plus important. Toute la gravité de la situation est là. Ils sont peut-être à la limite de se perdre ou de s'égarer définitivement. Paul prend les mesures les plus hautes parce qu'il les aime et qu'il veut les préserver. Mais en les aimant, il leur dit « humilité ». Plutôt que l'orgueil de se croire arrivé, d'avoir un statut, de se croire devant, grand, avec la connaissance, non. Réalisez qui vous êtes. Imitez-moi dans ma démarche, dans ce que j'applique de ma vie en Christ, et réalisez la puissance du royaume de Dieu. Et c'est sur cette dernière chose que je veux terminer. C'est vrai que l'humilité est requise pour le chrétien, et c'est normal, parce que nous ne sommes pas grand-chose. Mais en disant ça, on n'est pas en train de dire qu'on n'a aucune force. Le royaume vient et il s'est installé avec puissance. Et si vous avez l'occasion, lisez ce passage glorieux d'un Corinthiens 15 qui parle de la résurrection du Seigneur. Voici comment le royaume arrive avec puissance. Si le chemin de la croix a été humble, jusqu'à la croix, jusqu'à la mort, à la croix il se passe la chose la plus glorieuse. Jésus porte nos péchés, meurt avec et ressuscite. Ça, c'est la puissance qui nous fait passer de la mort à la vie. Et c'est cette puissance qu'on proclame partout, en annonçant que Jésus est vivant et qu'il sauve encore aujourd'hui. Et c'est cette puissance dans laquelle on doit croire jusqu'au bout du chemin. Prions. Merci Père, pour ta parole, qui est vrai, qui est utile, qui est nécessaire. Et merci de nous rappeler la juste humilité qu'il faut dans nos vies, de réaliser que nous n'accomplissons pas grand-chose, que nous ne sommes pas grand-chose, mais que par notre union avec Christ, nous devenons plus que vainqueurs. Nous avons accès à un héritage dont nous goûtons déjà les bénéfices aujourd'hui avec l'Esprit de Dieu en nous et qui sera réel à son retour, là où nous régnerons avec lui et nous serons débarrassés du péché et de la mort. Mais Seigneur, pour aujourd'hui, sur ce chemin de souffrance qu'on peut emprunter, sur les difficultés de la vie, les souffrances qui nous accablent, fortifie-nous. Donne-nous de nous rappeler que ton royaume s'est établi avec puissance et que c'est sur cette puissance que nous continuons d'avancer. Au nom de Jésus-Christ. Amen.